Chapitre 8. La Coupe du Monde de Quidditch. Emportant leurs achats, M. Wesley en tête, ils se précipitèrent vers le bois, le long du chemin éclairé par les lanternes. Ils entendaient autour d'eux des cris, des rires, des bribes de chansons qui s'élevaient de la foule. L'atmosphère enfiévrée était très contagieuse. Harry souriait sans cesse. Ils marchèrent pendant 20 minutes à travers bois, parlant, plaisantant à tue-tête, jusqu'à ce qu'ils émergent enfin d'entre les arbres pour se retrouver dans l'ombre d'un stade gigantesque. Harry ne voyait qu'une partie des immenses murailles d'or qui entouraient le terrain, mais il le devinait suffisamment vaste pour contenir une dizaine de cathédrales.
« Il peut recevoir 100 000 spectateurs !»
dit M. Wesley en remarquant l'air impressionné de Harry. « Le ministère a constitué une équipe spéciale de 500 personnes pour y travailler pendant une année entière. Chaque centimètre carré a été traité avec des sortilèges repousse-moldus. Tout au long de l'année, chaque fois qu'un moldu s'approchait d'ici, il se rappelait soudain un rendez-vous urgent et repartait au plus vite. « Oh, cher moldu » ajouta-t-il d'un ton affectueux. Il les mena jusqu'à l'entrée la plus proche devant laquelle se pressait déjà une foule bruyante de sorcières et de sorciers.
« Des places de choix !»
dit la sorcière du ministère qui contrôla leurs billets. « Tribune officielle, tout en haut, montez les escaliers. Quand il n'y aura plus de marche, vous serez arrivés. » À l'intérieur du stade, les escaliers étaient recouverts d'épais tapis pourpres. Ils grimpèrent les marches au milieu des autres spectateurs qui se répartissaient lentement sur les gradins, à droite et à gauche. Monsieur Wesley et son groupe continuèrent de monter jusqu'au sommet de l'escalier où ils se retrouvèrent dans une petite loge qui dominait tout le stade et donnait sur le centre du terrain, à mi-chemin, entre les deux lignes de but. Une vingtaine de chaises pourpres et or étaient disposées sur deux rangées, et lorsque Harry se fut faufilé jusqu'au premier rang en compagnie des Wesley, il découvrit un spectacle qui défiait l'imagination. 100 000 sorcières et sorciers étaient en train de prendre place sur les sièges qui s'élevaient en gradins tout autour du terrain ovale. Une mystérieuse lumière d'or semblait émaner du stade lui-même, et la surface du terrain, vue d'en haut, paraissait aussi lisse que le velours. À chaque extrémité se dressaient les buts, trois cercles d'or situés à une hauteur de 15 mètres. Face à la tribune officielle, presque à hauteur d'œil, s'étalait un immense tableau sur lequel s'inscrivaient, comme tracé par une main invisible, des mots couleur d'or qui disparaissaient peu à peu, remplacés par d'autres. En regardant plus attentivement, Harry comprit qu'il s'agissait de publicité.
« La bombe bleue, un balai pour toute la famille, sûr, stable, fiable, avec sirène antivol intégrée. Faites votre ménage sans peine grâce au nettoie-tout magique de la mer Gratte-Sec. Les tâches parties, plus de soucis. Habillez-vous chez Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorciers. Londres, Paris, Préolard. »
Harry détacha son regard du panneau et se retourna pour voir qui partageait la loge avec eux. Pour l'instant, les autres chaises étaient vides, sauf une, occupée par une minuscule créature assise à l'avant-dernier rang. La créature, dont les jambes étaient si petites qu'elles pointaient horizontalement devant elle, était vêtue d'un torchon à vaisselle drapé comme une toge et se cachait le visage dans les mains. Mais ses grandes oreilles, semblables à celles d'une chauve-souris, avaient quelque chose d'étrangement familier. « Dobby ?» dit Harry d'un ton incrédule. La petite créature leva la tête et écarta les doigts, révélant d'énormes yeux marrons et un nez qui avait la taille et la forme d'une grosse tomate. Ce n'était pas Dobby, mais il s'agissait sans nul doute d'un elfe de maison, tout comme l'avait été Dobby, l'ami de Harry. Harry avait libéré Dobby de ses anciens maîtres, la famille Malfoy.
« Est-ce que le monsieur m'a appelé Dobby ?»
couina l'elfe en regardant entre ses doigts avec curiosité. Sa petite voix tremblante était encore plus aiguë que celle de Dobby, et Harry pensa qu'il s'agissait peut-être d'une femelle, même s'il était toujours difficile de savoir à quel sexe appartenaient les elfes de maison. Ron et Hermione se retournèrent brusquement sur leur chaise pour regarder à leur tour. Harry leur avait beaucoup parlé de Dobby, mais ils ne l'avaient jamais vu. Même M. Wesley jeta à l'elfe un coup d'œil intéressé. « Désolé, » dit Harry, « je t'ai prise pour quelqu'un que je connais. »«
Mais moi aussi, monsieur, je connais Dobby. »
couina l'elfe. Elle se cachait le visage comme si la lumière l'aveuglait, bien que la loge ne fût pas brillamment éclairée.
« Je m'appelle Winky, monsieur. »
Ses yeux sombres s'écarquillèrent comme des soucoupes lorsqu'ils se posèrent sur la cicatrice de Harry.
« Vous êtes sûrement Harry Potter ?»«
Oui, c'est moi. »
« Oh, mais Dobby parle tout le temps de vous, monsieur. »
dit Winky en baissant légèrement les mains, l'air stupéfait et impressionné. « Comment va-t-il? Est-ce que la liberté lui convient ?»
Oh, monsieur, je ne veux pas vous manquer de respect, mais je ne sais pas si vous avez rendu service à Dobby, monsieur, quand vous l'avez libéré.
Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas?
La liberté monte à la tête de Dobby, monsieur,
dit Winky avec tristesse.
Il se croit plus haut qu'il n'est. Il n'arrive plus à trouver de place, monsieur.
Pourquoi? Demanda Harry. La voix de Winky baissa d'une demi-octave.
Il veut être payé pour son travail, monsieur.
Payé? Répéta Harry sans comprendre. Mais pourquoi ne serait-il pas payé? Winky parut horrifié à cette idée et referma légèrement les doigts, cachant à moitié son visage.
Les elfes de maison ne sont jamais payés, monsieur. Non. J'ai dit à Dobby, je lui ai dit, Dobby, trouve-toi une bonne petite famille où tu puisses mener une petite vie tranquille. Mais il n'arrête pas de faire les 400 coups, monsieur. C'est pas bien pour un elfe de maison. Continue à te faire remarquer comme ça, Dobby, je lui ai dit. Tu vas te retrouver devant le département de contrôle et de régulation des créatures magiques, comme n'importe quel gobelin.
Il faut bien qu'il s'amuse un peu, dit Harry.
Les elfes de maison n'ont pas à s'amuser, Harry Potter,
répondit Winky d'un ton ferme derrière ses mains qui cachaient toujours son visage.
Les elfes de maison doivent faire ce qu'on leur dit de faire. « Oh, je n'aime pas du tout l'altitude, Harry Potter. »
Elle jeta un coup d'œil par-dessus la balustrade qui entourait la loge et eut un haut-le-corps.
« Mais mon maître m'a envoyé dans la tribune officielle et donc j'y suis allée, monsieur. »«
Pourquoi t'a-t-il envoyé ici s'il sait que tu n'aimes pas l'altitude ?» demanda Harry en fonçant les sourcils.
« Oh, mon maître veut que je lui garde un siège. Harry Potter, oui, est très occupé. »
dit Winky en inclinant la tête vers l'espace vide à côté d'elle.
Winky aimerait bien retourner dans la tente de son maître, Harry Potter, mais Winky fait ce qu'on lui dit de faire. Winky est une bonne elfe de maison.
Elle jeta un nouveau coup d'œil apeuré vers la balustrade et se cacha les yeux derrière ses mains. Harry se retourna vers les autres. « Alors fais ça ! Un elfe de maison ? » murmura Ron. « Bizarre comme créature. » Dobby était encore plus bizarre. Répondit Harry avec conviction. Ron sortit ses multiplettes et les braqua sur la foule qui occupait les gradins de l'autre côté du stade. « Extraordinaire » dit-il en tournant la molette qui permettait de repasser les images. « Harry va voir de nouveau ce vieux bonhomme se mettre les doigts dans le nez. Ah, encore une fois et encore une fois !» Pendant ce temps, Hermione parcourait avec avidité son programme à la couverture de velours agrémentée d'un pompon. « Les mascottes des deux équipes présenteront un spectacle avant le match » lut-elle à haute voix.
Ça vaut la peine d'être vu, dit Monsieur Wesley. Les équipes nationales amènent des créatures typiques de leur pays d'origine pour faire un peu de spectacle.
Autour d'eux, la loge se remplit peu à peu au cours de la demi-heure qui suivit. Monsieur Wesley ne cessait de serrer la main de gens qui occupaient à l'évidence de hautes fonctions dans le monde de la sorcellerie. Chaque fois, Percy se levait d'un bond comme s'il avait été assis sur un porc-épic. À l'arrivée de Cornelius Fudge, le ministre de la magie, Percy s'inclina si bas que ses lunettes tombèrent et se cassèrent. Horriblement gêné, il les répara d'un coup de baguette magique et resta ensuite assis sur sa chaise, jetant des regards jaloux à Harry que Cornelius Fudge avait salué comme un vieil ami. Ils s'étaient déjà rencontrés et Fudge serra la main de Harry d'un air paternel, lui demanda comment il allait et le présenta au sorcier assis à ses côtés.
« Harry Potter, vous savez !» dit-il d'une voix forte au ministre bulgare qui portait une magnifique robe de sorcier en velours noir, ourlé d'or, et ne paraissait pas comprendre un mot d'anglais. « Harry Potter, voyons !» insista Fudge. « Je suis sûr que vous savez qui c'est, hein ? Le garçon qui a survécu à vous savez qui. Vous savez forcément qui c'est. »
Le sorcier bulgare vit soudain la cicatrice de Harry et se mit à parler très fort, d'un ton surexcité, en la montrant du doigt.
« Je savais que ça finirait comme ça !» dit Fudge à Harry d'un ton là. « Je suis pas très doué pour les langues étrangères. J'ai besoin de Barty Crompton dans ces cas-là. Je vois que son elfe de maison lui a gardé une chaise. C'est une bonne chose. Ces zigotos de Bulgares ont essayé de quémander toutes les meilleures places. Ah, voici Lucius !»
Harry, Ron et Hermione tournèrent vivement la tête. Se glissant le long du deuxième rang en direction de trois chaises vides derrière M. Wesley, ils virent arriver les anciens maîtres de Dobby, l'elfe de maison. Lucius Malfoy. Son fils Drago, et une femme qui devait être la mère de ce dernier. Harry et Drago Malfoy étaient ennemis depuis leur tout premier voyage à Poudlard. Le teint pâle, le nez pointu, les cheveux d'un blond presque blanc, Drago ressemblait beaucoup à son père. Sa mère était blonde, elle aussi, grande et mince. Elle aurait pu paraître séduisante si elle n'avait pas eu l'air d'être sans cesse incommodée par une odeur pestilentielle.
« Ah, Fudge !» dit M. Malfoy en tendant la main au ministre de la Magie. « Comment allez-vous ? Je crois que vous ne connaissez pas mon épouse Narcissa, ni notre fils Drago. »«
Mes hommages, madame !»
dit Fudge avec un sourire en s'inclinant devant Madame Malfoy.
« Permettez-moi de vous présenter Monsieur Oblansque, bref, le ministre bulgare de la magie. De toute façon, il est incapable de comprendre un traître mot de ce que je dis, alors peu importe. Et voyons ce qu'il y a encore. Vous connaissez Arthur Wesley, j'imagine ? Oui. »
Il y eut un moment de tension. Monsieur Wesley et Monsieur Malfoy échangèrent un regard et Harry se rappela en détail la dernière fois où ils s'étaient trouvés face à face. C'était à la librairie Fleury et Bottes et ils en étaient venus aux mains. Les yeux gris et froids de Monsieur Malfoy se posèrent sur Monsieur Wesley puis balayèrent le premier rang.
« Seigneur, Seigneur, »
dit-il à voix basse.
« Qu'avez-vous donc vendu pour obtenir des places dans la tribune officielle ? Votre maison n'aurait certainement pas suffi à payer le prix des billets. »
Fudge, qui n'écoutait pas, reprit la parole.
« Lucius vient d'apporter une contribution très généreuse à l'hôpital Sainte-Mangouste pour les maladies et blessures magiques, Arthur. Il est mon invité. »«
Ah, très bien, » dit M. Wesley avec un sourire forcé. Les yeux de M. Malfoy étaient revenus sur Hermione, qui rosit légèrement mais soutint son regard. Harry savait très bien pourquoi M. Malfoy pinçait les lèvres. Les Malfoy tiraient fierté de leur sang pur. En d'autres termes, quiconque descendait de parents moldus comme Hermione leur apparaissait comme un sorcier de seconde classe. M. Malfoy n'osa cependant rien dire en présence du ministre de la Magie. Il adressa un signe de tête dédaigneux à M. Wesley et suivit la rangée de chaises jusqu'aux places qui lui étaient réservées. Drago lança à Harry, Ron et Hermione un regard méprisant, puis s'assit entre son père et sa mère.
« Crétin vif que !»
marmonna Ron. Harry, Hermione et lui se tournèrent à nouveau vers le terrain. Un instant plus tard, Ludo Verpé entra en trompe dans la loge.
« Tout le monde est prêt ?»
demanda-t-il, son visage rond luisant comme un gros fromage de Hollande.
« Monsieur le ministre, on peut y aller ?»«
Pas bon quand vous voudrez, Ludo !»
dit Fudge très à son aise. Verpé sortit aussitôt sa baguette magique, la pointa sur sa gorge et s'exclama.
« Sonus !»
Il parla alors par-dessus le tumulte qui emplissait à présent le stade plein à craquer et sa voix tonitruante résonna sur tous les gradins.
« Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à cette finale de la 402e Coupe du Monde de Quidditch !»
Les spectateurs se mirent à hurler et à applaudir. Des milliers de drapeaux s'agitèrent, mêlant les hymnes nationaux des deux équipes dans une cacophonie qui s'ajouta au vacarme. Le dernier message publicitaire, « Les dragées surprises de Bertie Crochu, prenez le risque à chaque bouchée », s'effaça de l'immense tableau qui affichait à présent « Bulgarie 0, Irlande 0 ».
Et maintenant, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter les mascottes de l'équipe bulgare.
La partie droite des gradins, entièrement colorée de rouge, explosa en acclamations.
« Je me demande ce qu'ils ont amené, » dit M. Wesley qui se pencha en avant.
« Oh !» Il enleva brusquement ses lunettes et les essuya sur sa robe de sorcier.
« Des vélanes !»
Qu'est-ce que c'est que des vélanes ? Mais une centaine d'entre elles venaient de faire leur apparition sur le terrain et la question de Harry trouva sa réponse. Les vélanes étaient des femmes, les plus belles femmes que Harry eût jamais vues. Sauf qu'elle ne pouvait être humaine. Cette constatation rendit Harry perplexe, et il essaya de déterminer ce qu'elles étaient exactement. Comment se pouvait-il que leur peau scintille ainsi comme un clair de lune, que leurs cheveux d'or blanc volent derrière elles, alors qu'il n'y avait pas le moindre vent ? Mais à ce moment, la musique retentit, et Harry ne se soucia plus de savoir à quel genre d'être il avait affaire. D'ailleurs, il ne se soucia plus de rien du tout. Les vélanes s'étaient mises à danser et la tête de Harry se vida aussitôt. Il n'éprouva plus rien d'autre qu'une totale félicité. Désormais, la seule chose au monde qui lui importait, c'était de continuer à regarder les vélanes. Car si elles cessaient de danser, il ne pourrait en résulter que de grands malheurs. Tandis que les vélanes se trémoussaient au rythme d'une musique de plus en plus vive, des pensées folles, insaisissables, tournoyaient dans l'esprit hébété de Harry.
il avait envie de faire, à l'instant même, quelque chose de spectaculaire, d'impressionnant. Par exemple, sauter de la loge et atterrir en vol plané au milieu du stade lui paraissait une bonne idée. Mais serait-ce suffisant ? « Harry, qu'est-ce que tu fais ?» demanda la voix lointaine d'Hermione. La musique cessa. Harry cligna des yeux. Il s'était levé et avait commencé à enjamber la balustrade de la loge. À côté de lui, Ron était figé dans l'attitude de quelqu'un qui s'apprête à s'élancer d'un plongeoir. Des cris de fureur s'élevaient dans le stade. Les spectateurs refusaient de laisser partir les Vélanes et Harry ne pouvait que les approuver. Il était évident, à présent, qu'il allait soutenir l'équipe bulgare et il se demanda vaguement pourquoi il avait un grand trèfle vert épinglé sur sa poitrine. Pendant ce temps, Ron, d'un air distrait, déchirait en lambeaux les trèfles qui ornaient son chapeau. Monsieur Wesley, un vague sourire aux lèvres, se pencha vers Ron et lui prit le chapeau des mains.
« Tu en auras besoin, quand l'Irlande aura dit son mot.
Hein ?» marmonna Ron, bouche bée, le regard fixé sur les Vélanes qui s'étaient alignés d'un côté du terrain. D'un air réprobateur, Hermione tendit la main et ramena Harry vers sa chaise.
« Non mais vraiment ?» dit-elle.
Et maintenant,
rugit la voix amplifiée de Ludo Verpet,
veuillez, s'il vous plaît, lever vos baguettes pour accueillir les mascottes de l'équipe nationale d'Irlande.
Un instant plus tard, quelque chose qui ressemblait à une grande comète vert et or surgit dans le stade. Elle fit un tour complet du terrain, puis se sépara en deux comètes plus petites, chacune se précipitant vers les buts. Un arc-en-ciel se déploya brusquement d'un bout à l'autre du stade, reliant entre elles les deux comètes lumineuses. Des « ah !» des « oh !» retentirent dans la foule comme à un spectacle de feux d'artifice. Puis l'arc-en-ciel s'effaça, et les deux comètes se réunirent et se fondirent à nouveau en une seule, formant à présent un grand trèfle scintillant qui s'éleva dans le ciel et vola au-dessus des tribunes. Une sorte de pluie d'or semblait en tomber.
« Magnifique !»
s'écria Ron lorsque le trèfle vola au-dessus d'eux, répandant une averse de pièces d'or qui rebondissait sur leurs chaises et sur leurs têtes. Harry observa le trèfle en clignant des yeux et s'aperçut qu'il était composé de milliers de tout petits bonshommes barbus, vêtus de gilets rouges et portant chacun une minuscule lanterne verte ou dorée.
« Des farfadets !» dit Monsieur Wesley au milieu des applaudissements déchaînés des spectateurs dont beaucoup s'affairaient autour de leur siège pour ramasser les pièces d'or tombées à leurs pieds.
« Et voilà !»
s'écria Ron d'un ton réjoui en fourrant une poignée d'or dans la main de Harry.
« Pour les multiplettes ! Mais maintenant, il faudra que tu m'as fait un cadeau de Noël !»
Le trèfle géant se dispersa, les farfadets se laissèrent tomber en douceur sur le terrain de l'autre côté des Vélanes et s'assirent en tailleur pour assister au match.
« Et maintenant !» Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe nationale de Quidditch à Bulgarie. Voici Dimitrov.
Sous les applaudissements déchaînés des supporters bulgares, une silhouette vêtue de rouge, à califourchon sur un balai, surgit d'une des portes qui donnait sur le terrain en volant si vite qu'on avait du mal à la suivre des yeux.
Ivanova!
Un deuxième joueur en robe rouge fila dans les airs.
« Zonkraf, Levski, Volkanov, Volkov, et voici Akrum !»«
C'est lui, c'est lui !»
hurla Ron suivant Krum à l'aide de ses multiplettes. Harry le regarda à son tour à travers les siennes. Victor Krum était mince, le teint sombre et cireux, avec un grand nez arrondi et d'épais sourcils noirs. On aurait dit un grand oiseau de proie. Il était difficile de croire qu'il avait seulement 18 ans.
Et maintenant, accueillons l'équipe nationale de Quidditch d'Irlande.
C'est Pumona Verplay.
Voici Connolly, Ryan, Troy, Mullet, Moran, Quigley et Lynch.
7 traînées vertes jaillirent sur le terrain. Harry tourna une petite molette sur le côté de ses multiplettes et regarda les joueurs passer au ralenti. Il vit alors le mot « éclair de feu » gravé sur chacun de leurs balais et leur nom brodé en lettres d'argent dans leur dos.
« Et voici, arrivant tout droit d'Égypte, notre arbitre, l'estimé président sorcier général de l'Association internationale de Quidditch, Hassan Mostafa !»
Un petit sorcier flanqué, complètement chauve, mais doté d'une moustache qui aurait pu rivaliser avec celle de l'oncle Vernon, s'avança à grands pas sur le terrain. Un sifflet d'argent dépassait dessous sa moustache. Sous un bras, il portait une grosse caisse en bois et sous l'autre, son balai volant. Harry remit sur la vitesse normale le cadran de ses multiplettes, regardant attentivement Mostafa enfourcher son balai et ouvrir la caisse d'un coup de pied. 4 balles en surgirent aussitôt.
le soifle écarlate, les deux cognards noirs et, Harry ne l'aperçut qu'un très bref instant avant qu'il s'envole hors de sa vue, le minuscule vif d'or pourvu de petites ailes d'argent. Soufflant d'un coup sec avec son sifflet, Mostapha s'éleva dans les airs derrière les balles.
« Et c'est parti !» hurla Verplay. « Le soifle amulette qui passe à Troy, Moran, Dimitrov, Moulette à nouveau, Troy, Levski, Moran !»
C'était du Quidditch comme Harry n'en avait encore jamais vu. Il pressait si fort ses multiplettes contre ses yeux que la monture de ses lunettes lui écorcha l'arête du nez. Les joueurs filaient à une vitesse incroyable. Les poursuiveurs se passaient le soifle avec une telle rapidité que Verpé avait tout juste le temps de dire leur nom. Harry tourna la molette du ralenti sur le côté droit de ses multiplettes, pressa le bouton image par image juste au-dessus et vit alors le match au ralenti avec des explications qui s'affichaient sur les lentilles en lettres violettes étincelantes. Dans les tribunes, le vacarme de la foule déchaînée malmenait ses tympans. Attaque en faucon, l'eut-il en voyant les trois poursuiveurs irlandais foncer côte à côte. Troy au centre, Mulet et Moran légèrement en retrait dans une attaque contre les Bulgares. Les mots « feinte de Porskov » s'affichèrent ensuite sur les lentilles de ses multiplettes lorsque Troy fit semblant de monter en chandelle avec le soifle, entraînant dans son sillage la poursuiveuse bulgare Ivanovna, puis laissa tomber le soifle que rattrapa Moran. L'un des batteurs bulgares, Volkov, frappa vigoureusement avec sa batte un cognard qui passait devant lui, l'envoyant sur la trajectoire de Moran. Celle-ci se baissa pour l'éviter et lâcha le soifle. Levski fonça et le rattrapa.
« Troy marque !»
rugit Verplay et tout le stade trembla sous les applaudissements et les acclamations.
« 10-0 en faveur de l'Irlande !»«
Quoi ?» s'exclama Harry, lançant des regards frénétiques autour de lui à travers ses multiplettes. « C'est Levski qui avait le soifle !» « Harry, si tu ne regardes pas le match à la vitesse normale, tu vas manquer des tas de choses !» cria Hermione qui sautillait sur place en agitant les bras tandis que Troy faisait un tour d'honneur. Harry regarda par-dessus ses multiplettes et vit que les farfadets qui regardaient le match depuis les lignes de touche s'étaient à nouveau envolés pour reconstituer le grand trèfle scintillant. De l'autre côté du terrain, les Vélan les regardaient d'un air boudeur. Furieux contre lui-même, Harry ramena la monnaie sur la position vitesse normale lorsque le match reprit. Il connaissait suffisamment bien le Quidditch pour pouvoir apprécier l'extraordinaire virtuosité des poursuiveurs irlandais. Il y avait entre eux une parfaite harmonie. À en juger par la façon dont ils se plaçaient, on aurait dit qu'ils lisaient dans les pensées les uns des autres et la rosette épinglée sur la poitrine de Harry ne cessait de couiner leur nom.
Troy, Mulet, Moran.
Moins de 10 minutes plus tard, l'Irlande avait marqué 2 autres buts, faisant monter le score à 30-0 et déclenchant un tonnerre de vivats et d'applaudissements chez les supporters vêtus de vert. Le match devint encore plus rapide et plus brutal. Volkov et Vulkanov, les batteurs bulgares, frappaient les cognards avec férocité en les envoyant sur les poursuiveurs irlandais et parvenaient à perturber leur plus belle trajectoire. À 2 reprises, les Irlandais furent contraints de rompre leur formation
et Ivanova
finit par franchir leur défense, feinter le gardien, Ryan, et marquer le premier but bulgare.
« Bouchez-vous les oreilles !»
cria M. Wesley tandis que les Vélan se mettaient à danser pour célébrer l'exploit. Harry se cacha également les yeux. Il voulait rester concentré sur le jeu. Quelques instants plus tard, il risqua un regard vers le terrain. Les Vélan avaient cessé de danser et le soifle était à nouveau entre les mains des joueurs bulgares.
« Dimitrov, Levski, Dimitrov, Ivanova ! Oh là 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 !»
rugit Verpé. 100 000 sorcières et sorciers retinrent leur souffle en voyant les 2 attrapeurs, Krum et Lynch, foncer en piqué au milieu des poursuiveurs à une telle vitesse qu'ils semblaient avoir sauté d'un avion sans parachute. Harry suivit leur descente à travers ses multiplettes, plissant les yeux pour essayer d'apercevoir le vif d'or.
« Ils vont s'écraser !»
hurla Hermione à côté de Harry. Elle eut à moitié raison. À la toute dernière seconde, Victor Krum redressa son balai et remonta en chandelle. Lynch, en revanche, heurta le sol avec un bruit sourd qu'on entendit à travers tout le stade. Une immense plainte s'éleva des gradins occupés par les Irlandais.
« Quel idiot !» gémit M. Wesley. « C'était une fin de Krum !»«
Tant mort !»
cria la voix de Verpé.
« Des médicomas se précipitent sur le terrain pour examiner Aidan Lynch !»
« Ça va aller, il s'est simplement un peu planté », dit Charlie à Ginny qui s'était penché par-dessus la balustrade de la loge, l'air terrifié. « C'est ce que voulait Krum, bien sûr !» Harry se hâta d'appuyer sur les boutons répétition et image par image de ses multiplettes, tripota la molette de ralenti et regarda à nouveau l'action. Au ralenti, il revit la descente en piqué de Krum et Lynch. Fan de Vronsky, dangereuse manœuvre de diversion de l'attrapeur, lut Harry en lettres lumineuses. Il remarqua le visage de Chrome, tendu par la concentration, tandis qu'il remontait en chandelle au dernier moment, alors que Lynch s'écrasait à terre, et il comprit. Chrome n'avait pas du tout vu le vif d'or. Il voulait simplement inciter Lynch à l'imiter. Harry n'avait jamais vu personne voler comme ça. On aurait presque dit que Chrome évoluait sans balai. Il se déplaçait si facilement dans les airs qu'il semblait n'avoir besoin d'aucun support, comme s'il n'était pas soumis à l'attraction terrestre. Harry remit ses multiplettes en position normale et les braqua sur Chrome. Il décrivait des cercles loin au-dessus de Lynch que les médicomages étaient en train de ranimer à l'aide de potions. Harry fit le point sur le visage de Chrome et vit ses yeux sombres lancer des regards rapides sur toute la surface du terrain qui s'étendait 30 mètres au-dessous de lui. Il profitait du temps passé à ranimer Lynch pour essayer de repérer le vif d'or sans aucune interférence des autres joueurs. Lynch se releva enfin sous les acclamations des supporters vêtus de vert, enfourcha son éclair de feu et s'élança à nouveau dans les airs. Son retour sembla donner un regain d'ardeur à l'Irlande. Lorsque Mostafa siffla la reprise du match, les poursuiveurs passèrent à l'action avec une habileté que Harry jugea sans égale. Au bout d'un nouveau quart d'heure de fureur et de prouesse, l'Irlande avait pris le large en marquant 10 nouveaux buts. Son équipe menait à présent par 130 points à 10 et le jeu commençait à tourner mal. Lorsque Mullet s'élança à nouveau vers les buts, en serrant le soifle sous son bras, le gardien bulgare, The Graf, se porta à sa rencontre. L'action fut si rapide que Harry ne vit pas très bien ce qui s'était passé, mais le hurlement de rage qui retentit chez les supporters irlandais et le long coup de sifflet de Mostafa lui indiquèrent qu'il y avait eu faute.
« Et Mostafa donne un avertissement au gardien bulgare pour brutalité, usage excessif des coudes !»
annonça Verplay aux spectateurs qui hurlaient de toutes parts.
« Eh oui, un pénalty en faveur de l'Irlande !»
Les farfadets qui s'étaient élancés dans les airs avec colère, tel un essaim de frelons scintillants lorsque Mullet avait été victime du gardien bulgare, se regroupaient à présent pour former les lettres H-A-H-A-H-A. De l'autre côté du terrain, les Vélanes se levèrent d'un bond, firent onduler leurs chevelures en remuant la tête d'un air furieux et se remirent à danser. D'un même mouvement, les Wesley et Harry se bouchèrent les oreilles, mais Hermione, qui était restée immobile, tira soudain Harry par le bras. Il se retourna et elle lui ôta elle-même les doigts des oreilles d'un geste impatient. « Regarde l'arbitre !» dit-elle en pouffant de rire. Harry baissa les yeux vers le terrain et vit un étrange spectacle. Hassan Mostafa avait atterri devant les Vélanes et faisait rouler ses muscles en lissant sa moustache d'un air surexcité.
« On ne peut pas tolérer ça !» s'exclama Ludo Verpet tout en ayant l'air de s'amuser beaucoup.
« Que quelqu'un aille donner une gifle à l'arbitre !»
Un médicomage traversa le terrain en se bouchant les oreilles et donna un grand coup de pied dans les tibias de Mostafa. Celui-ci sembla revenir à lui. Regardant à nouveau à travers ses multiplettes, Harry vit qu'il avait l'air très gêné. Il cria quelque chose aux Vélanes, qui avaient cessé de danser, prêtes à se rebeller.
« À moins que je me trompe, il semble que Mostafa s'efforce de renvoyer dans leur coin les mascottes de l'équipe bulgare !»
commenta la voix de Verpet.
« Et maintenant, voici quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu. Oh, la situation pourrait bien se gâter !»
Ce fut le cas. Les batteurs bulgares, Volkov et Vulcanov, atterrirent de chaque côté de Mostafa et commencèrent à se déchaîner contre lui, gesticulant en direction des farfadets qui avaient à présent formé dans le ciel les mots « hi, hi, hi ». Mais Mostafa ne se laissa pas impressionner par les protestations bulgares. Il pointa le doigt en l'air en leur ordonnant visiblement de reprendre leur vol et devant leur refus, lança deux brefs coups de sifflet.
« Deux pénaltys en faveur de l'Irlande !»
s'écria Verpet, déclenchant des hurlements furieux parmi les supporters bulgares.
« Volkov et Vulganov feraient bien de remonter sur leur balai. Ouais, ça y est, c'est ce qu'ils font. Et c'est Troy qui prend le soifle !»
Le jeu atteignait maintenant un niveau de férocité qu'on n'avait encore jamais vu. Les batteurs de chaque équipe se montraient sans merci. Volkov et Vulkanov en particulier agitaient violemment leurs battes sans se soucier de savoir si elles frappaient des cognards ou des joueurs. Dimitrov fonça sur Moran, qui était en possession du soifle, manquant de la faire tomber de son balai.
« Faute ! Faute !»
hurlèrent les supporters irlandais d'une même voix en se dressant d'un bond dans une grande vague verdoyante.
« Faute !»
répéta en écho la voix magiquement amplifiée de Ludo Verpet.
« Dimitrov vole délibérément sur Moran en cherchant à provoquer le choc et nous devrions avoir un autre pénalty. Voilà le coup de sifflet !»
Les farfadets s'étaient à nouveau élancés dans les airs et cette fois ils formaient une main géante qui faisait un signe obscène en direction des Vélanes. Celles-ci perdirent alors tout contrôle. Elles se précipitèrent sur le terrain et se mirent à jeter sur les farfadets des poignées de flammes. En les observant à travers ces multiplettes, Harry remarqua qu'elles avaient perdu toute beauté. Leurs visages s'étaient allongés et ressemblaient à présent à des têtes d'oiseaux au bec cruel, tandis que des ailes couvertes d'écailles jaillissaient de leurs épaules.
« Et ça, mes enfants ?»
s'exclama M. Wesley dans le tumulte qui remplissait le stade.
« C'est la preuve qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence !»
Des sorciers du ministère envahirent le terrain pour essayer sans grand succès de séparer les Vélanes des Farfadets. Mais la bataille qui avait lieu sur le sol n'était rien en comparaison de celle qui se déroulait dans les airs. À travers ces multiplettes, Harry regardait de tous côtés, suivant le souffle qui changeait de main à la vitesse d'une balle de fusil.
« Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Mulet, Ivanova, Moran à nouveau, Moran, Moran qui marque !»
Mais les cris de joie des supporters irlandais s'entendirent à peine parmi les hurlements perçants des Vélanes, les détonations produites par les baguettes magiques des représentants du ministère et les rugissements de fureur des Bulgares. Le jeu reprit aussitôt. Levski s'empara du souffle, le passa à Dimitrov. Quigley, le batteur irlandais, brandit sa batte et frappa de toutes ses forces un cognard en direction de Krum, qui ne se baissa pas assez vite et le reçut en pleine figure. Un grondement assourdissant monta de la foule. Le nez de Krum semblait cassé. Il avait du sang partout, mais Hassan Mostafa ne donna aucun coup de sifflet. Il avait d'autres soucis et personne ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas réagi. L'une des Vélanes venait en effet de lui jeter une poignée de flammes qui avait mis le feu à son balai. Harry espérait que quelqu'un allait s'apercevoir que Krum était blessé. Tout en étant supporter de l'Irlande, il considérait Krum comme le joueur le plus fascinant qu'il ait jamais vu. Et Ron, de toute évidence, avait la même opinion.
« T'en mort, voyons, il peut pas jouer comme ça !»«
Regarde Lynch !» s'écria Harry. L'attrapeur irlandais descendait en piqué et Harry était sûr qu'il ne s'agissait pas d'une fin de Vronsky. Cette fois-ci, c'était bien le vif d'or.
« Il l'a vu !» s'exclama Harry. « Il l'a vu, regarde-le !»
Une bonne moitié des spectateurs semblaient avoir compris ce qui se passait. Les supporters irlandais se levèrent comme un raz-de-marée d'un verre étincelant en poussant des cris d'encouragement à l'adresse de leur attrapeur. Mais Krum le suivait de près. Harry se demanda comment il arrivait encore à voir où il allait. Des gouttes de sang jaillissaient dans son sillage, mais il avait rattrapé Lynch à présent. Et tous deux, côte à côte, fonçaient à nouveau vers le sol.
« Ils vont s'écraser !»
hurla Hermione.
« Non !»
rugit Ron.
« Lynch est fichu !»
s'écria Harry. Et il avait raison. Pour la deuxième fois, Lynch heurta le sol de plein fouet et fut aussitôt piétiné par une horde de Vélanes déchaînés.
« Le vif d'or, où est le vif d'or ?» vociféra Charlie. « Il l'a eu ! Krum l'a eu ! C'est fini !»
s'exclama Harry. Krum, sa robe rouge luisante du sang qui coulait de son nez, remontait lentement dans les airs, le poing serré, une lueur dorée nimbant sa main. Le grand panneau afficha en lettres lumineuses « Bulgarie, 160 !» Irlande, 170. Dans les gradins, la foule semblait ne pas avoir encore réalisé ce qui venait de se passer. Puis, peu à peu, comme les réacteurs d'un énorme avion s'apprêtant à décoller, le grondement des supporters irlandais augmenta d'intensité et explosa tout à coup en hurlements d'allégresse.
« Ouais, l'Irlande a gagné !»
s'écria Verpe, qui, comme les Irlandais, semblait avoir été pris de court par la soudaine issue du match.
« Krum a attrapé le vif d'or, mais c'est l'Irlande qui gagne, Seigneur ! Qui donc pouvait s'attendre à ça ?»«
Pourquoi est-ce qu'il a attrapé le vif d'or ?»
cria Ron, tout en sautant sur place et en applaudissant avec les mains au-dessus de la tête.
« Il a mis fin au match alors que l'Irlande avait 160 points d'avance, l'imbécile !»«
Il savait qu'il ne pouvait plus remonter !» lui répondit Harry en criant lui aussi pour couvrir le vacarme, mais sans cesser d'applaudir bruyamment. Les poursuiveurs irlandais étaient trop forts. Ils voulaient que le match finisse à son avantage, voilà tout.
« Il a été très courageux, non ?»
dit Hermione en se penchant en avant pour regarder Krum atterrir, tandis qu'une nuée de médicommages se frayait un chemin vers lui, au milieu des Vélanes et des Farfadets qui se livraient bataille. Harry regarda à nouveau à travers ses multiplettes. Il était difficile de voir ce qui se passait à cause des farfadets fous de joie qui volaient en tous sens au-dessus du terrain, mais il parvint quand même à apercevoir Krum entouré de médicommages. Il avait l'air plus renfrogné que jamais et refusait qu'ils épongent le sang de sa figure. Ses coéquipiers s'étaient rassemblés autour de lui, hochant la tête, les rabattus. Un peu plus loin, les joueurs irlandais dansaient joyeusement sous la pluie d'or que déversait leur mascotte. Des drapeaux s'agitaient d'un bout à l'autre du stade. L'hymne national irlandais retentissait de toutes parts. Les Vélanes avaient retrouvé leur beauté habituelle, mais paraissaient tristes et accablés.
« Oh, nous nous sommes battus avec grand courage.
soupira d'un ton mélancolique une voix derrière Harry. Il se retourna, c'était le ministre bulgare de la magie.
Mais vous parlez notre langue, dit Fudge indigné. Et vous m'avez laissé parler par jeu toute la journée.
C'est vraiment très drôle,
répondit le ministre bulgare avec un haussement d'épaules.
Et pendant que l'équipe d'Irlande accomplit un tour d'honneur flanqué de ses mascottes, la Coupe du Monde de Quidditch est apportée dans la tribune officielle,
rugit Verpé.
Harry fut soudain ébloui par une lumière blanche éclatante. La loge venait de s'illuminer par magie pour que tout le monde, sur les gradins, puisse voir ce qui s'y passait. Deux sorciers essoufflés apportèrent alors une immense coupe d'or qu'ils tendirent à Cornelius Fudge. Celui-ci paraissait toujours furieux d'avoir dû passer la journée à parler inutilement par signe.
« Et maintenant, applaudissons bien fort, les courageux perdants, l'équipe de Bulgarie !»
s'écria Verpé. Montant l'escalier qui menait à la loge, les 7 joueurs bulgares firent leur entrée. Des applaudissements s'élevèrent de la foule pour saluer les vaincus, et Harry vit des milliers de multiplettes scintiller dans leur direction. Un par un, les Bulgares s'avancèrent dans les travées et Verpé donna le nom de chacun entre eux, pendant qu'ils serraient la main de leur propre ministre, puis celle de Fudge. Krum, le dernier de la file, tenait toujours le vif d'or dans son poing et paraissait dans un état épouvantable. Deux yeux au beurre noir, particulièrement spectaculaires, étaient apparus sur son visage ensanglanté. Harry remarqua que ses mouvements semblaient moins harmonieux lorsqu'il était au sol. Il avait le dos rond et des pieds légèrement écartés qui l'obligeaient à marcher en canard. Mais lorsque son nom fut prononcé, le stade tout entier explosa en acclamations assourdissantes. Ce fut ensuite le tour de l'équipe irlandaise. Aidan Lynch était soutenu par Moran et Connolly. Sa seconde chute l'avait étourdi et ses yeux, au regard étrange, semblaient avoir du mal à faire le point. Il eut cependant un large sourire lorsque Troy et Kingsley levèrent la coupe à bout de bras et que la foule manifesta son enthousiasme par une longue ovation qui fit trembler le stade comme un tonnerre. Harry ne sentait plus ses mains à force d'applaudir. Enfin, lorsque les joueurs irlandais eurent quitté la loge pour accomplir un autre tour d'honneur sur leur balai, Verpé pointa sa baguette vers sa gorge et murmura
« Sourdinam ». « On parlera de ce match pendant des années, » dit-il d'une voix enrouée. « Quel coup de théâtre, ce... Dommage que ça n'a pas duré plus longtemps. Ah oui, c'est vrai. Je vous dois... combien ?»
Fred et Georges venaient d'enjamber le dossier de leur chaise et se tenaient à présent devant Ludo Verpé avec un grand sourire et la main tendue.